Vous écoutez Radio Bonheur, il est 19h05, voici les déchaînés du football. Ce soir, c'est le magazine des déchaînés du football, jusqu'à 20h30 avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Gaëtan est avec nous en studio, bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors ce week-end, tous les clubs pro jouaient et tous les clubs que nous suivons se déplaçaient aussi. Guingamp se déplaçait à Annecy, Troyes également recevait l'équipe de Lorient.
Brest,
je me trompe.
Et Lorient était à Nice.
Et Lorient était à Nice, ouais, faut pas vieillir. Bon.
Trois déplacements et trois matchs nuls surtout.
Ouais, c'est ça, trois déplacements et trois matchs nuls. On en parlait justement avec Gaëtan juste avant que l'émission ne débute. On n'a pas souvenir d'une sortie comme ça, enfin d'un week-end avec trois matchs nuls, surtout trois déplacements, en cumulant trois déplacements et trois matchs nuls, pas souvenance.
Non, on a déjà eu cette saison trois victoires, on a déjà eu aussi des week-ends avec trois défaites, trois week-ends sans marquer. Là, voilà, on ajoute une corde à notre arc. Effectivement, c'est pas des mauvais résultats dans l'ensemble.
Non,
hein,
ça globalement, reste c'est plutôt pas mal.
Non, puisque c'est à l'extérieur, donc c'est plutôt pas mal.
Et puis en plus, par rapport au... On va y venir avec les uns et les autres, mais par rapport aux résultats des concurrents, ce qui concerne Brest notamment... Pour Lorient, aller prendre un point à Nice qui ne perd plus du tout depuis que Didier Digard a été nommé. Bon, ce sont des bons points pour Guingamp qui entretient aussi une certaine dynamique. Donc ce sont au-delà des déplacements des bons points par rapport à certains éléments qu'on va évidemment détailler. On commence bien sûr par le Stade Brestois 29 qui a été accroché, Pierre.
Par les Troyens,
alors qui a été accroché ou qui a accroché 3? Comment on doit le prendre?
Ça dépend de la mi-temps
à laquelle on se réfère.
Qui a été accroché pendant la première période et qui s'est accroché durant la seconde, parce que c'est vrai qu'on ne faisait pas les malins à la pause vu la prestation des Tizèves. Vous l'avez entendu hier, si vous aviez suivi avec nous le direct et le duplex, je pense que les mots même des Brestois après la rencontre, vous allez l'entendre, sont encore plus cruels que les nôtres, parce que vraiment ils sont passés complètement à côté de leur première période, alors qu'ils avaient pourtant ouvert le score. On va revivre tout ça évidemment avec le résumé de la rencontre. Heureusement, il y a eu une seconde période de bien meilleure facture et Brest a pu au moins sauver l'essentiel, c'est-à-dire le match nul. On réécoute le résumé. Et Agoumé sur la droite pour Baldé qui contrôle ce ballon, qui temporise devant Del Castillo, qui réussit son dribble dans le couloir. Baldé qui centre, second poteau, c'est très long. La poitrine de Baldé, la remise pour Agoumé, le contrôle, le petit ballon pour Lopez et la parade exceptionnelle de Marco Bizot sur ce superbe mouvement troyen. Sur le premier tir du match, il est signé Pierre Lesmelou avec beaucoup de réussite, parce que cette frappe de 25 mètres plein axe, elle a été touchée soit par Sagnier, soit par Rami. Toujours est-il que Gauthier Gallon a été trompé. C'est une bénédiction pour les Brestois qui étaient complètement dominés dans cette rencontre, qui n'arrivaient pas à se faire 3-4 passes dans le camp adverse. But de Lesmelou, 1-0. Égalisation troyenne, l'égalisation de Renaud Ripard sur une frappe de loin là aussi. Et Marco Bizot, il est peut-être pas exempt de tout reproche sur cette situation, cette frappe à ras de terre de Renaud Ripard. Brest qui n'aura tenu son avantage que 3 minutes. C'est le tonnerre de Brest qui gronde sur la surface des Tizèves. Seul la transversale qui arrive à mi-hauteur sur un tout compté. Ils sont trois bleus dans la surface, dont Mama Baldé et Ronny Lopez tout seul au deuxième. Le deuxième but troyen qui a renversé ce match en 6 minutes. Attention, ici à 3, Madi Camara qui est dans la surface. Oh, il est taclé. Et qu'est-ce qu'il siffle? Pénalty pour Brest. C'est un moment très important du match, mais peut-être même de la saison de Brest. Del Castillo, c'est parti, c'est but. C'est à ras de terre, presque dans le petit filet. Romain Del Castillo qui marque un but
relativement mérité quand même dans cette seconde période, parce que Brest est bien mieux. 3 se met à douter. Et là, les amis, on s'est peut-être mis dans une bonne situation pour même le gagner de partout. Ballon vers la surface, Wolf Adiga qui a du mal à dégager, Odobert qui contrôle, qui va peut-être frapper, il n'a pas l'angle de frappe, Balmer Brown contré par Baldé, sortez là, bon sang, c'est fait. Ronny Lopez qui va frapper du gauche, Bizotte impeccable, et c'est terminé. Match nul, 2 buts partout, toujours pas de victoire pour les Troyens qui ont complètement raté leur seconde période. Brest qui est revenu logiquement à 2 buts partout dans ce second acte, mais la première période méritait pas mieux. 2-2, Brest s'en sort bien et maintient 3 derrière lui.
Ouais, ça aurait pu être pire pour les Brestois, hein, ce match. Les Brestois qui s'en sortent somme toute pas trop mal avec ce 2-2 et 3 qui n'arrivent toujours pas à gagner. C'est compliqué, hein, pour les Troyens depuis quelques semaines, quelques mois, qui n'arrivent plus à gagner. Les Troyens depuis 10 journées, c'est ça ? 9-10 journées.
Ouais, je crois que c'est sur les 10 derniers matchs, hein, 0 ouais. victoire, et c'est une seule sur les 20 derniers maintenant, avec ouais, celui ouais. d'hier. Donc plus d'une demi-saison.
Ils sont pas passés loin là. Hein, c'était, pour eux, c'était prenable, hein, les Brestois. Ouais, mais ouais. voilà, la deuxième mi-temps n'a pas été à la hauteur, Pierre.
Mais comme leur dernier match à domicile contre Monaco, ils avaient fait 2 buts partout également. Ils avaient longtemps mené 1-0. Monaco qui avait retourné le match en menant 2-1 et finalement 3 avec Hugbo, l'attaquant canadien, qui avait égalisé à la toute fin. Oui, ils n'arrivent plus à gagner. Hier, Kis Norbo, l'entraîneur australien de Troyes, parlait d'un problème physique. Sans l'impression, c'est toujours les entraîneurs qui arrivent en cours de saison, au bout de 3-4 mois, voyant qu'ils n'ont pas de résultat, ils allument un peu la prépa physique de début de saison du coach précédent. C'est peut-être le cas, hein, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend assez souvent. On revient sur ce 3-Brest avec donc les réactions brestoises, et écoutez la première de l'entraîneur Éric Roy. Forcément, dans l'analyse de ce résultat, il y a le score et puis il y a surtout la prestation en première mi-temps.
Je sais pas, c'est difficile à dire. On a tellement montré un mauvais visage en première période que sur le scénario, du coup, de repartir d'ici avec le point du match nul, c'est plutôt une bonne opération. Mais c'est une bonne opération parce qu'on a été, à mon sens, pas à notre niveau et on n'a pas été capable de justement proposer des choses, surtout en première période. Et du coup, on s'est fait punir alors qu'on a eu l'opportunité, le miracle quelque part, d'ouvrir le score. Donc, ça aurait dû au contraire nous libérer et nous permettre de pouvoir asseoir notre jeu et après une domination pour pouvoir gérer. Et puis, mais bon, on n'avait pas les armes aujourd'hui pour le faire.
Ouais, il a parlé de miracle quand même, hein, pour ce premier but.
Bah, comme moi dans le commentaire, c'est vraiment le mot, je pense, qui nous est tous venu à l'esprit quand Brest a marqué, parce qu'il n'arrivait pas à aligner 3 passes dans le camp adverse. On ne caricature même pas, c'est que Troyes était vraiment bien entré dans son match. On avait vraiment aussi l'impression à la mi-temps, pour l'avoir dit à la pause dans notre analyse, que Troyes jouait un match pour se maintenir et que Brest n'était visiblement pas au courant que c'était très important de ne pas perdre ce match. Heureusement, il y a eu cette réaction en seconde période, et puis aussi une équipe de Troyes qui a reculé, qui s'est mise à douter. Et aussi, Gaëtan, on voit ça souvent avec des équipes qui doutent. Quand elle mène 1-0, ça fait des années que j'appelle ça la peur de gagner. Vous êtes là, vous menez, il menait 2-1. Vous êtes partagé entre l'idée peut-être d'aller en marquer un troisième pour avoir encore plus de marge, mais vous dites, oh là là, attention, parce qu'on pourrait peut-être se faire rejoindre. Et ben, ce jeu-là, ils ont encore perdu, les Troyens.
Ouais, et puis ils sont tellement friables défensivement, les Troyens. Ça fait 61 buts encaissés là depuis le début de la saison, donc ça montre de vraies lacunes de ce côté-là. C'est pourtant une équipe qui marque régulièrement et qui marque d'ailleurs beaucoup à l'extérieur, plus qu'à domicile, mais ils en ont mis 2 quand même hier chez eux au stade de l'Aube. Et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, ça peut paraître étonnant parce que la première, elle est bonne, visiblement livrée par les stacks. Donc tomber dans ses travers à ce point-là, ça peut-être surprendre en effet pour les stacks qui avaient non seulement le match en main en termes de jeu, mais surtout au niveau du score. Donc ça fait quand même 2 éléments qui penchaient vraiment en leur faveur. Ils n'ont pas su en profiter.
Et puis dès le début de la seconde période, on sentait qu'il y avait de la place pour revenir pour les Brestois, parce que les Troyens ont diffusé des signaux de fragilité extrême, notamment Gauthier Gallon qui n'était pas du tout souverain dans son but. Il y a eu des sorties aériennes qu'il a mal maîtrisées, le pénalty qui doit franchement être donné à Steve Mounier autour de l'heure de jeu, des ballons relâchés, enfin bref, tout qui nous donnait à penser que ça allait tourner pour les Tisefs. Mais les Brestois qui nous ont étonné hier dans le mauvais sens, parce que Gaëtan, vous y étiez, on a vu un super visage contre le Paris Saint-Germain, Brest,
qui
n'avait pas été loin quelques minutes de tenir le match nul, voire plus, avec un peu plus de réussite. Et hier, comment expliquer que après ce bon match contre le PSG, les Brestois aient livré cette première période très très délicate, tentative de réponse de l'entraîneur Éric Roy et du capitaine Pierre Lesmélou?
C'est le mystère du foot, hein. C'est compliqué à expliquer. C'est ça aussi qui nous fait nous remettre en question, nous en tant que techniciens, en tant que staff, de se demander s'il y a des choses qu'on n'a pas bien expliquées ou qu'on n'a pas. Mais il est évident que voilà, l'image qu'on a donnée sur la première période, c'est pas du tout l'image qu'on veut donner du stade brestois.
Ben, j'ai l'impression que c'est un peu notre problème de cette année. Hein. On fait des bons matchs contre les plus grosses équipes et contre les équipes avec lesquelles on se bat. Je sais pas, c'est inconsciemment peut-être on se met la pression alors que justement non, c'est là où il faudrait qu'on monte nos jeux et qu'on impose notre jeu, et ouais, on a un peu de mal quoi. Ou alors on attend de prendre des coups derrière la tête pour se réveiller. Et c'est dommage parce qu'on est trop souvent en réaction et ça serait bien d'être dans l'action.
Ce qui est bizarre, Gaëtan, c'est qu'on disait avant ce match que Brest avait des bons résultats contre les concurrents directs. Mais voilà, il parle de visage, Pierre Lesmélou, qui serait meilleur pour Brest dans les grands moments. On se souvient d'un joli nul d'ailleurs contre Marseille.
Exactement.
À domicile, le match du PSG, c'est étonnant.
Il y avait eu le bon nul contre Lens aussi, le 0-0 contre Lille qui était dans un autre contexte parce que c'était le premier match en Ligue 1 avec Éric Roy. Et c'est vrai que bon, si on prend les résultats face aux concurrents, ils sont plutôt bons, mais on se souvient aussi d'un match exécrable contre Ajaccio en septembre, une défaite 1-0 à domicile. Il y avait pu avoir
Moi je me souviens aussi de votre analyse après le 4-0 contre Angers.
Oui, qui avait été aussi parce que ce match-là, Angers peut ouvrir le score. Il y a une occasion pour mener 1-0. Angers a une occasion de revenir à 1 partout avec une barre. Et finalement, Brest avait eu cette réussite aussi, parce qu'ils mettent 4 buts, les Brestois, sur, je vais pas dire leurs 4 premières occasions, hein, mais c'est vrai que tout avait bien penché pour eux. Mais finalement, le cours des choses aurait très, très bien pu être le contraire aussi, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment étonnant. Et
mais à l'arrivée, ils prennent des points quand même, parce que hier, justement, ils prennent quand même ce point du nul. Donc,
C'est la meilleure nouvelle de l'après-midi, quand même, pour les Tizèf. Et Éric Roy le disait d'ailleurs après le match, sur la première période. Il y avait vraiment deux choses à séparer. Le score, qui n'était pas un bon score non plus pour Brest, parce qu'ils étaient menés, mais c'était presque miraculeux de n'être mené que 2-1. Et puis la prestation qui était franchement inquiétante. On en reparle après cette première page de pub de l'émission.
MMA, toujours derrière les pros.
Je suis Tiffany, agent MMA à Saint-Malo, et j'ai la chance d'accompagner depuis 6 ans Cédric dans le développement de son entreprise de réparation d'électroménager. Chez MMA, on croit à l'économie circulaire. Professionnel. Vous aussi trouvez un agent MMA pour vous accompagner dans la durée sur entreprise.mma.fr. Informations également en agence.
Bienvenue chez Dacia Service. Votre contrôle technique approche ? Détendez-vous, on s'occupe de tout. Après un bilan préparatoire, direction un centre agréé pour le contrôle. Et pendant ce temps, un véhicule de remplacement vous attend.
Avec Dacia Service, à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. En ce moment, profitez du pack contrôle technique avec bilan préparatoire et véhicule de remplacement à 99 euros seulement. En plus, la contre-visite est offerte. Réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril. La condition est prise de rendez-vous sur Dacia.fr.
Alors Mathilde, on peut y aller ?
Non, pars devant, je te rejoindrai.
Bah, il te reste quoi à faire ?
Envoyer les factures à mes clients.
Ah, Mathilde ?
Oui ?
C'est le Crédit Agricole. Pour vous rappeler qu'avec Propulse, votre compte pro, vous pouvez encaisser, gérer vos notes de frais et facturer vos clients via votre appli.
Ah !
C'est qui, lui ?
Bah, le Crédit Agricole.
Ah, ok, normal.
Ouvrez votre compte pro 100% en ligne en 5 minutes pour 8 euros par mois sur propulsebyca.fr.
Sous réserve d'acceptation par Ocali, établissement de monnaie électronique enregistré auprès de l'ACPR. Conditions et tarifs sur propulsebyca.fr.
Oh, j'avais pas fait gaffe. C'est beau, hein. Regarde la montagne. Oh, magnifique.
Elle a toujours été là, hein.
Et là, ces arbres, ils sont superbes.
C'est sûr.
C'est fou la vie quand même, hein. Un nouveau pare-brise et on redécouvre le monde. Merci, Motrio.
Jusqu'au 31 mai, pour toute opération pare-brise Motrio, on vous offre les balais d'essuie-glace, voire conditions.
Cette année, on fête les 20 ans de Motrio avec toujours plus de 1100 garages en France. Trouvez le vôtre sur motrio.fr.
Avec Hello Bank Pro, vous avez choisi d'être indépendant, pas d'être seul.
Bah, le quotidien d'Amasson, c'est... Mais c'est aussi... les impayés, les dépôts de chèques.
Avec Hello Bank Pro, bénéficiez de solutions de financement et d'encaissement par chèque, espèces, carte bancaire et de tous nos services bancaires utiles aux indépendants pour seulement 10,90€ hors taxes par mois. Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants. Sous réserve d'acceptation, détails et conditions sur hellobankpro.fr. Hello Bank est une marque de BNP Paribas.
Grand frais.
Oui, c'est le papa de Théo. Alors le 22 mars, il y a la réunion parents-prof, mais je peux pas, j'ai grand frais. Ils offrent un super sac collector en édition ultra limitée. Il me le faut absolument. Donc plutôt qu'une réunion parents-prof, vous pourriez peut-être faire une réunion prof-prof.
Ce mercredi 22 mars, chez Grand Frais, recevez votre sac collector hyper stylé à utiliser, réutiliser et réutiliser. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais.
Le meilleur marché.
Sac en coton tissé en France, des 30€ d'achat, dans la limite des stocks disponibles, conditions sur grandfrais.com.
Eh hey papa, il aurait besoin d'un pro le jardin pour être en forme avant l'été, non?
Ouais, un peu comme moi quoi. Bon ok, j'appelle un pro.
Pour profiter de l'été pleinement, remettez votre jardin en état dès maintenant. Le végétal, c'est la vie.
Leclerc.
Alors faut que je trouve un cadeau pour ma petite nièce.
Bah regarde, il y a moins 50% sur le coffret de 40 pots de pâte à modeler Play-Doh arc-en-ciel. Il est plus qu'à 12,45€ et tous les enfants adorent.
Le coffret Play-Doh à moitié prix? Oh, toutes ces couleurs.
Ouais, c'est chouette.
Avec ça, je pourrais faire des bonhommes, des glaces, des animaux.
C'est bien ce que je disais, tous les enfants adorent.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 21 mars au 1er avril, modalité magasin participant sur www.e.leclerc.
Et vous, Élodie, pourquoi avoir choisi Vérissure?
Avec le télétravail, j'ai toujours pensé que j'étais à l'abri. Pourtant, à midi, j'étais juste partie faire 2-3 courses et je me suis fait cambrioler. Personne n'a rien vu. Depuis, je suis équipée Vérissure et je sais que je suis vraiment en sécurité.
Rendez-vous sur Vérissure.fr pour bénéficier des frais d'installation offerts. Offre soumise à condition, voire sur Vérissure.fr. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Vous écoutez Radio Bonheur avec les déchaînés du football. Nous continuons de parler de ce match entre Troyens et Brestois.
Oui, avec cette fameuse première période qui fait décidément beaucoup parler. Alors on va avancer quand même dans ce match avec la mi-temps. Qu'est-ce qu'il s'est dit à la pause? Voici la réponse du capitaine Pierre Lesmélou.
Bien sûr, c'est ralent, surtout que... Quand on mène 1-0 comme ça avec beaucoup de réussite, mine de rien, c'est inespéré. On doit, même quitte à souffrir, reculer, garder les ballons quand il faut et jouer s'il faut en contre, mais pas prendre 2 buts 5 minutes après, c'est ça le plus rageant. Bah, un petit peu, on s'est dit les choses et à la fin on s'est même dit un peu chanceux parce qu'au final il n'y avait que 2-1. On était toujours dans le match. Et c'est ce qui nous a fait rester dans le match parce que c'est vrai qu'à 3 ou 4-1 on aurait pu... rentrer la tête dans les chaussettes et justement à 2-1 on avait toujours cet espoir de revenir et c'est pour ça qu'on est revenu avec autant d'envie et on avait surtout envie de changer ce visage de la première mi-temps.
Alors on peut dire chanceux pendant cette première période les Brestois?
Ouais, parce que alors après il n'y a pas eu non plus des tonnes d'occasions. On va dire heureusement que c'était un 3 qui doutait quand même en face parce que on voyait sur certaines actions il n'osait pas tirer, etc. Mais oui, contre un autre adversaire ça pouvait faire 3 ou 4 à la mi-temps. Donc c'était vraiment la chance des Brestois de n'avoir qu'un seul but de retard lorsqu'ils ont rejoint les vestiaires. Mais ce qui a été par contre très positif, c'est que dès les premières secondes, les premiers duels, les premiers ballons de la seconde période, on a senti tout de suite qu'ils étaient revenus avec d'autres intentions quand même. Ils ont fait reculer cette équipe troyenne. Et d'ailleurs, on a posé la question là-dessus par rapport à ce qui avait changé à la mi-temps, à Steve Mounier, l'attaquant de Brest, parce qu'en première période, les Tizefs étaient vraiment gênés par les pistons de Troyes sur les couloirs. Comté à gauche et Baldé à droite, c'est un problème qui a été un petit peu réglé à la pause. Écoutez l'attaquant brestois.
C'est ça, on a eu des difficultés avec les pistons. Après, on l'a réglé en seconde mi-temps en faisant un pressing un peu plus haut, ce qui permettait que ils étaient moins facilement touchables, les pistons. Et c'était la solution de ce match. Donc ça fait qu'on a étouffé cette équipe de Troyes. Ils n'ont pas réussi à eux produire du jeu en seconde mi-temps. Et nous, on avait complètement la maîtrise du ballon. Et c'est ça qui nous a permis d'aller de l'avant et de se créer quelques occasions.
Ouais, quelques occasions, il n'y en a pas eu beaucoup non plus, mais il y a eu pas mal de litiges au niveau arbitral. On pense notamment au pénalty de Steve Mounier. D'ailleurs, ça sera l'objet de notre rubrique de demain, parce que vous allez entendre à 8h38 et 17h38, il me semble qu'il était assez en colère, Steve Mounier, par rapport au pénalty qu'il n'a pas obtenu. Et Madi Camara nous racontera, lui, comment et pourquoi il a obtenu ce penalty égalisateur, un but logique pour les Brestois, donc qui leur a permis de repartir avec le point du nul et puis surtout comptablement de laisser 3 derrière, à 3 points des Tizèves, qui a permis aussi aux Brestois de rester juste au-dessus de la ligne de flottaison, juste à la position de premier non relégable. C'est ce que voulait retenir par-dessus tout Éric Roy hier soir au Stade de l'Aube.
Mais bon, non, je pense qu'il faut rester malgré tout positif. La bonne opération, elle est quand même pour nous, parce que comme je l'ai dit, c'était surtout 3 qui devaient gagner. Nous aujourd'hui, sur certains adversaires directs, on prend des points, on prend un point. On n'oublie pas que c'est malgré tout un match à l'extérieur. On va retenir ces choses-là positives pour l'équipe et puis pour se préparer pour le prochain match.
Et le prochain match, ça sera le week-end du 2 avril. Gaëtan, c'est le dimanche, non ?
Rappelez-moi l'affiche et ça va me revenir.
Je l'ai oui, c'est le 2.
Brest-Toulouse.
Ouais, c'est le 2. C'est le 2.
Ouais, c'est à 15h, effectivement. Ouais. C'est Lorient qui joue à 13h ce jour-là, le dimanche à Lille. Et bien voilà, la transition est faite, mon petit Gaëtan.
Exactement.
Ouais, Toulouse qui n'est pas en grande forme, hein, qui a plutôt tendance à perdre ces dernières semaines.
Et qui en plus préparera 3 ou 4 jours après sa demi-finale de Coupe de France. Donc peut-être que leur
ils ont perdu ce week-end, mais ils avaient des. En fait, ça dépend. Ils ont tendance à beaucoup marquer à domicile, mais là, ce week-end, ils ont perdu à domicile.
Je crois que c'est 3 ou. Je sais plus si c'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs ou 4 défaites sur les 5 derniers.
4 sur les 5 derniers,
ouais. C'est ça, ouais.
Et après, c'est vrai que bon, à domicile, ils ont tendance plutôt d'habitude à rectifier le tir. Bon, c'est vrai qu'ils ont joué aussi Marseille et Lille là sur récemment la maison, mais ils avaient aussi perdu contre Clermont. Comme quoi, il y aura aussi sans doute quelque chose à réaliser pour les Brestois contre Toulouse. En tout cas, les Merlus, eux, ont aussi été chercher un point contre une équipe qui joue. Comme c'était le cas d'ailleurs entre Brest et Troyes, une équipe qui joue dans les mêmes eaux que Lorient, l'OGC Nice, parce que ce sont deux équipes qui étaient et qui sont toujours à égalité de points, 44 unités pour les Niçois et les Lorientais, et un match nul plutôt logique, léger avantage à Nice quand même sur l'ensemble du match, mais un point qui n'est pas volé pour la troupe de Régis Tobris. On commence évidemment cette page lorientaise avec le résumé de ce match, c'était hier après-midi.
Le ballon de Schmeichel et le ballon pour les Lorientais à l'entrée de la surface. La frappe de Dieng à côté du but du gardien niçois. Il avait totalement raté sa relance, plein axe en voulant dégager un ballon fuyant juste au-dessus de la tête des Lorientais. Il était récupéré par Makengo à 35 mètres. Il a trouvé Dieng. Dieng s'est retourné, mais la frappe est passée à côté. Position de centre, Enzo Lefebvre, il y a du danger là dans la surface, voilà qui est fait avec Romain Febvre, bousculé, mais il continue sa course, le centre et le but, l'ouverture du score, la passe décisive, avec ce très bon ballon en retrait, et c'est le premier but en Ligue 1 de Bamo Meïté qui était resté aux avant-postes suite à ce corner, la belle inspiration, la belle idée de Meïté, et Lorient ouvre le score sur la pelouse de Nice après ce très bon travail de Romain Febvre, 1-0 pour les Merlus.
Ah ben ça c'est une surprise Gaëtan.
Fait du bien, en effet, cette égalisation brestoise. Attention, le ballon pour les Niçois. Brahimi à côté, la frappe de Brahimi. Elle n'est pas cadrée. Il avait cherché le petit filet opposé hein, sur cette tentative croisée. L'attaquant niçois, la 74e. Le centre vers Pépé, deuxième poteau avec la tête. Derrière la reprise et le but de la Borde. Il a fallu qu'il soit trouvé une seule fois en deuxième mi-temps pour qu'il marque Gaëtan Laborde. Et les Niçois recollent au Lorientais. Un but partout dans le dernier quart d'heure. Le poteau est venu aider l'attaquant niçois. Lorient se fait égaliser face à l'OGC Nice. Rouge pour Igor Silva, le latéral lorientais, deuxième carton jaune, et là un pied très haut devant Belayan. Il a même ouvert hein, le front de Belayan, il est en sang le Troyen. Et la fin de match qui est sifflée sur ce score d'un but partout entre Nice et Lorient. Lorient a souffert en deuxième période, mais a tenu bon quand même pour gratter ce match nul. Un but partout entre Nice et les Merlus.
Ouais, et puis dans le contexte quand même, faire match nul à Nice, c'est pas si mal parce que Nice est plutôt en forme.
Oui, 13 matchs de rang sans défaite pour les Niçois, toutes compétitions confondues, puisque Nice, on rappelle, est le dernier représentant français en Coupe d'Europe, en Ligue Europa Conférence. Ils avaient joué jeudi, les Niçois, et se sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Et sur ce match-là, c'est vrai qu'on n'a pas vu un grand Nice, mais pas un grand Lorient non plus, mais deux équipes voilà, qui avaient une certaine dynamique à entretenir quand même, qui avaient, et notamment pour Lorient, la volonté de continuer à mettre les principes de jeu en place avec les recrues, etc. Et ce nouveau système en 4-1-4-1 hein, qui maintenant est utilisé par Régis Lebris, il y avait ces petites choses-là à continuer de peaufiner. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Tout n'a pas été parfait, notamment en deuxième mi-temps. Il y a vraiment eu voilà, les Merlus ont levé le pied quand même. Hein. Sur la seconde période, ça a été plus délicat. On écoute l'analyse globale du buteur de l'après-midi, Bamo Meïté.
Donc on fait une bonne entame de match. Après, on a eu des temps faibles, mais bon, on a quand même fait une très bonne première période. Donc en deuxième, c'était plus compliqué parce qu'on... On a subi, après on a fait un gros match, on a fait un match de 7ème. Voilà, on a égalité de points avec Nice, on savait. Donc aujourd'hui c'était le match qu'on voulait réaliser et on l'a réalisé.
Oui, c'est le match qu'il voulait réaliser en termes de solidité, notamment Lorient a très peu concédé sur ce match. Nice, c'est un seul tir cadré, c'est le but de Gaëtan Laborde. Et encore, oui, si, ça, alors, c'est un poteau rentrant. Est-ce que... Pierre, vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller, le poteau rentrant...
Ça compte, ouais. Ça va dedans.
Ça va donc, il n'y a pas d'autre frappe.
Quand c'est poteau sortant, c'est pas cadré, effectivement.
Mais parce que comme ça touche le montant au départ. Mais ouais, donc la seule frappe cadrée, c'est le but du Niçois Laborde. Et côté Lorientais, trois frappes cadrées, mais pas forcément avec du danger à chaque fois. Il y a eu ce but, quand même, de Bamo Meïté, à la 30e minute, hein, pour les Lorientais. Après un corner qui avait été dégagé au départ, mais il y a eu une très belle passe de Lefebvre pour Romain Fèvre, qui a amené le danger dans la surface. Et écoutez, ensuite, la suite de l'action racontée par Bamo Meïté.
Ouais, c'est ça, je reste haut parce que je savais que Enzo allait la centrer ou alors il trouve la très belle passe pour Romain. Donc après je sens que Romain il va centrer parce qu'il est un peu excentré et puis il me fait une très belle passe et puis je la mets au fond.
Ouais, Bamo Meïté qui marque son premier but chez les professionnels, cette ouverture du score, il y a la passe d'Enzo Lefebvre effectivement qui est capitale sur l'action. Il y a aussi, je trouve, le très bon travail de Fèvre, hein, parce que il est légèrement accroché au départ par Hicham Boudaoui, mais Boudaoui retient son geste et on sait que parfois des attaquants auraient cherché le pénalty au moindre contact et se seraient effondrés dans la surface et n'aurait finalement rien obtenu. Là non, Romain Fèvre, il est allé au bout de son effort, au bout de son idée, et il a trouvé Bamo Meïté en retrait, qui était resté là en renard des surfaces pour marquer ce but et permettre à Lorient d'ouvrir le score sur la pelouse de Nice. Une deuxième page de pub dans ce magazine, pas tout de suite, on va attendre un petit peu alors, et on va donc continuer de parler de la défense des Lorientais. On parlait du défenseur Bamo Meïté, on va parler maintenant de la défense dans sa globalité. C'était la 7e fois d'affilée hein, que Bamo Meïté était associé en tant que titulaire en Ligue 1 d'affilée, en tout cas oui, à Montassart-Albi. Les deux hommes restent là sur 3 buts encaissés seulement hein, sur les 7 derniers matchs. Donc ça montre que la défense apporte aussi de la satisfaction. Et c'est surtout une défense centrale qui fait corps de plus en plus. On écoute à ce sujet Régis Lebris.
Donc on stimule beaucoup les relations dans les lignes, dans les triangles, pour permettre à ce que en fait ce soit jamais des joueurs isolés sur un terrain, ils sont toujours dans une association. Et donc là il y en a une qui est vraiment très naturelle dans une défense centrale, et quand on a la possibilité d'avoir un Montassart qui est jeune aussi hein, il est né en 98, c'est un jeune international, et donc il est appelé à avoir un très très bel avenir, mais il découvre aussi lui la Ligue 1 associé à un garçon qui fait ses premiers matchs professionnels. Donc c'est un peu d'expérience à côté de pas d'expérience. Donc c'est bien. Bon, après Monta, il a quand même fait la Coupe du Monde aussi. Donc c'est bien qu'il apporte tout ça à Bamo. Et puis Bamo, bah, il s'enrichit.
Oui, parce que c'est vrai finalement. On a un joueur, Montassart-Albi, on a déjà l'impression que c'est un vieux briscard, mais parce qu'il s'est très vite adapté. Mais en fait, il n'a que 25 ans. C'est sa première année en Ligue 1, sa première année en Europe. Alors oui, il a disputé la Coupe du Monde notamment, mais on lui donne aussi beaucoup de responsabilités. Alors il le fait très bien, hein, mais il n'a que 25 ans en fait.
Ouais, mais on voit que c'est quand même un joueur mature dans son attitude, dans son discours, même par ce qu'il dégage sur le terrain. Et c'est vrai que quand vous jouez une Coupe du Monde, que vous êtes international déjà, parce qu'on se rend pas compte, nous, quand on est chez nous, mais en Afrique, il y a une pression terrible hein, sur les équipes nationales. Et en plus, par rapport à la Tunisie, hein, qui est l'une des plus grosses nations, et à chaque fois, à chaque fois, il y a une énorme pression sur ces joueurs-là. Et je me souviens, alors c'était pas la Coupe du Monde, mais c'était la Coupe d'Europe, quand Guingamp était en Ligue 2, il y a 13 ans, 2009, 14 ans bientôt, mon Dieu. C'est Alarbi El Jadeyaoui, l'ancien de Guingamp et de Brest, qui avait joué contre Hambourg le match de Ligue Europa. Il avait dit, j'ai eu l'impression de gagner 3 ans d'expérience en un match. Donc imaginez la Coupe du Monde, ça vous montre un tout autre niveau. En plus, ils ont quand même joué contre l'équipe de France et le Danemark, qui sont deux références en Europe et dans le monde. Donc ouais, il a ce vécu-là, ce bagage-là, et c'est rassurant aussi pour un jeune comme Meïté. On voit les jeunes qui arrivent à éclater au plus grand jour, on l'a vu aussi à Ouattara, c'est parce qu'autour, ils sont encadrés par... Alors, il y avait Mofi, parce qu'au milieu aussi, Lefay, il a pu aussi progresser comme ça, parce qu'il y avait Abergel et Lemoine aussi, à un moment donné, autour de lui. Donc, c'est ça qui est très intéressant aussi dans les associations dont parle le Brice.
Exactement. Et Bamo Meïté en fait donc partie avec Montassar Talbi. Deuxième page de pub dans ce magazine des déchaînés. Et on revient tout de suite pour la suite de ce Nice-Lorient.
Au bois joli, il y a des violettes, de l'aubépine et de l'églantier. J'ai lié ma botte avec un brin de paille. J'ai lié ma botte avec un brin d'osier. Le soir, j'y vais pour y faire la cueillette, en gros sabots et en tablier. Ma botte avec un brin de paille, j'ai lié ma botte avec un brin d'osier. J'en cueillis tant, j'en avais plein ma route. Pour les porter, j'ai dû les lier. Avec mes fleurs, je l'ai salué. J'ai lié ma botte avec un brin de paille. J'ai lié ma botte avec un brin d'osier. Elle m'a demandé de venir à la ville. De mon père, son bois joli et ses églantiers.
Le magazine des déchaînés du football en est en direct, 19h38 en direct pour parler du bon match nul de Lorient à Nice ce week-end, hier.
Oui, de ce point ramené un but partout à l'Alliance Riviera. On a parlé de Bamo Meïté qui a marqué. On a parlé de la défense centrale globalement, de cette solidité dégagée notamment jusqu'à la 70e, même si ça avait commencé à pousser déjà dès le retour des vestiaires du côté de Nice. Et puis Lorient s'est mis à trop reculer, à beaucoup moins aussi garder le ballon, à beaucoup moins avoir beaucoup moins d'aisance pour le ressortir. Et forcément, les Merlus se sont exposé à ce type de situation qui a amené l'égalisation de Gaëtan Laborde. On écoute le capitaine Laurent Abergel.
Voilà, on aurait aimé faire aussi bien que la première, mais voilà, c'est une belle équipe aussi en face, donc il y a aussi pas mal de pression de leur part qui te met tout au long du match, donc on a essayé de pas reculer. Malheureusement, c'est ce qui nous a un peu manqué sur la deuxième mi-temps, mais voilà, il y a des choses à améliorer, on en est conscient et on va faire mieux.
Sur cette deuxième mi-temps, c'est vrai que les Merlus ont reculé, mais pour autant, Nice n'a pas eu pléthore d'occasions.
Non, on disait un seul tir cadré, une pression des centres, beaucoup de ballons autour de la surface, mais Vito Manone, il n'a pas d'arrêt à faire. Donc ça montre aussi quelque part le peu de dangerosité vraiment nette devant le but apporté par cette équipe de Nice. Même si Nice a réussi en effet à égaliser et à prendre ce point du nul face à Lorient. Là où Lorient a vraiment été fort, et on en a parlé hier pendant le match, c'était sur le fait de réussir à couper les connexions avec Gaëtan Laborde, l'attaquant qui était vraiment esselé. Nicolas Pépé n'arrivait pas à le trouver. Kefren Thuram, pas tant que ça. Hicham Boudaoui, non plus.
Il y avait
plus.
Un vrai travail de préparation, pense.
Ouais, vraiment, c'était...
Pour ce match spécifiquement, et notamment pour Laborde.
Oui, notamment pour Laborde. Hein, c'était, on a senti que c'était vraiment travaillé. Comme Régis Lebris l'expliquait un peu, ça partait de Boudaoui, en fait, aussi au départ, tout ce travail-là. Et puis derrière, forcément, avec Pépé et avec Thuram, qui ont tendance à beaucoup accompagner Gaëtan Laborde vers la surface. Mais les défenseurs ont...
Oui, pardon, je vous coupe, Gaëtan, parce que je vois Laborde, il a touché 20 ballons. C'est très peu dans le match. Et je vais regarder son nombre de ballons dans la surface, parce que ça...
Je pense qu'il y en a quand même... je pense qu'il y a plus de la moitié dans la surface, mais peut-être que je me trompe.
1, 2, 3...
C'est tout
3.
Très peu.
3,
très peu,
et il en a touché 3 sur la ligne de la surface. Donc, allez, ça peut monter jusqu'à 6, mais vraiment, les 3, elles sont aux 16 mètres, et il y en a un dans les 6 mètres, un sur la ligne des 6 mètres, et un à 9 mètres.
D'accord. Bah, j'avais effectivement le sentiment qu'il n'en avait pas touché beaucoup, mais par contre, sur le lot, je pensais qu'il y en avait plus quand même dans la surface.
Il a tenté 2 tirs, visiblement.
Ouais, c'est ça, il y en a un en première mi-temps aussi là qui ne donne rien de mémoire. Mais je pensais qu'il avait eu quand même quelques ballons, mais que c'était souvent en fait à la limite de la surface où il y a un pied lorientais qui intervenait et en effet,
clairement dans la surface, il y en a que 3.
Ouais, donc ça montre en effet que Nice a eu beaucoup de mal à mettre Lorient en difficulté sur ce match. Lorient qui certes a concédé l'égalisation, mais dans ce qu'entreprend Lorient ces dernières semaines, il y a une vraie ligne de conduite aussi qui se transcrit en termes de score, de statistiques, c'est que les Merlus concèdent de moins en moins de buts. Autant sur la période où ils gagnaient tous leurs matchs quasiment sur la phase aller, il y avait un but concédé quasiment à chaque fois. C'était du 2-1, il y a eu du 3-2 contre Nantes, il y a eu un peu de 3-1 aussi. Autant là, certes ils gagnent moins, mais ils prennent beaucoup moins de buts. On pense au 3-0 contre Ajaccio, 0-0 contre Lyon, il y a eu 2-0 la semaine dernière contre l'Estac, là c'est un seul but encaissé. Depuis la défaite 4-2 à Reims, il n'y a que 3 buts encaissés sur les 7 matchs qui ont suivi. C'est un visage un peu différent en effet que proposent les Merlus sur la deuxième partie, mais celui-là a cette vertu d'être solide en effet du côté défensif pour le FC Lorient, qui a donc gratté ce point avant la dernière trêve internationale de la saison, puisqu'on y est dans cette trêve internationale. Alors quel est le programme pour les Merlus, qui auront encore beaucoup d'équipes du haut de tableau à jouer au retour de la trêve, puisque Lille, Monaco et Paris notamment seront au menu et Marseille des 5 prochains matchs. Écoutons le coach Régis Lebris.
Alors une première semaine où on va maintenir l'intensité, mais on va réduire beaucoup le volume de manière à ce que les joueurs puissent souffler, parce que c'est un gros enchaînement depuis la reprise. Donc il ne s'agit pas de les entraîner, mais quand même d'avoir un tout petit peu de marge psychologique pour pouvoir descendre un tout petit peu. Et à partir du mardi suivant, on est de nouveau au taquet pour faire une vraie semaine qui nous amènera sur Lille.
Oui, Lille, ce sera un deuxième déplacement consécutif pour les Merlus à la reprise après cette trêve internationale dernière de la saison. Pour des Merlus qui au classement sont donc 8e avec 44 points. Ils ont gratté un point sur Reims, les Merlus, puisque Reims a perdu hier soir 2-1 contre Marseille. Ils restent à égalité avec l'OGC Nice. Puis un peu plus haut, le Stade Rennais qui fait le très gros coup du week-end, puisque Rennes a gagné 2-0 à Paris.
Incroyable. Rennes qui n'allait pas formidablement dernières semaines, ces derniers mois même, et qui gagne au Parc.
Ouais, Paris qui a perdu, mais les 5 équipes qui suivent, Marseille, Lens, Monaco, Rennes et Lille, ont toutes gagné ce
week-end. Ça se resserre un peu. Bon, PSG garde une avance confortable.
Ça reste je trouve quand même, franchement, c'est le pire PSG depuis que le Qatar est arrivé. Ça ressemble pas à grand-chose. Alors, ils avaient beaucoup de blessés hier. Mais quand même, qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on les voit jouer. Même à Brest l'autre jour, j'ai pas regardé tout le match, mais à vous entendre, ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions non plus.
Non, c'est ça, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions non plus. Donc ça montre
Je pense que si vous enlevez Mbappé, on le disait l'année dernière, vous enlevez Mbappé, ils sont sixième.
Ouais, c'est ça. Ils s'en remettent constamment à lui.
Ah,
il y a eu un grand mandanda.
Ah oui, non, c'est terrible que cette équipe-là, je parle pas, j'ai rien contre le PSG, le club, etc., mais que cette équipe-là qui produise ça, qui a été complètement dominée par le Bayern en 8e en Champions League, que cette équipe-là soit leader avec 7 et 9 points d'avance. Je trouve ça assez inquiétant, en fait. C'est terrible.
Ouais, mais parce qu'ils arrivent souvent, justement, avec Mbappé, à faire la différence sur des matchs comme à Brest la semaine dernière, dans les toutes dernières minutes. Et on l'a vu quand il a manqué quelques matchs, c'est là aussi que ça s'est un peu compliqué pour les Parisiens. Voilà pour le haut tableau. Et puis donc, un peu plus bas, le Stade Brestois est toujours en dehors de la zone rouge.
Alors là, c'est serré quand même en bas. Hein.
Oui, c'est serré parce qu'on a donc le Racing Club de Strasbourg, 15e, 26 points, juste derrière Brest, 24. Et puis dans la zone rouge, Auxerre 23, 3-21, Ajaccio 21, et très loin le SCO d'Angers avec 10 points toujours. Mais c'est vrai qu'entre donc Strasbourg et Ajaccio, voilà, 5 points.
Heureusement que Brest a gagné, heureusement que Brest a égalisé,
oui.
Parce que sinon on se retrouvait là avec 3 équipes à 23 points.
Exactement,
hein. Brest,
ouais.
Auxerre et 3. Bon, pour Angers, on le sait déjà depuis un petit moment, il n'y a quasiment plus aucun espoir de voir Angers la saison prochaine en Ligue 1. Ajaccio et Troyes, ce sont, Pierre, les deux candidats les plus sérieux pour accompagner Angers.
Oui, parce qu'Ajaccio marque aucun but.
C'est ça.
Ils n'ont pas les armes. Troyes, il y a quelques joueurs de talent, hein, quand même. Mama Baldé et Ronny Lopez. Ouais. Mais il dégage une extrême fébrilité derrière. Et puis Auxerre, moi, je sais plus si on en a parlé la semaine dernière à l'antenne ou si c'était du off avec vous, Gaëtan, mais je trouve que la bonne série d'Auxerre, elle est arrivée trop tôt dans la saison. Et ça peut se tasser.
Peut-être.
Je sais plus.
Après, Christophe Pélissier, c'est possible.
Oui, on en avait parlé. Oui,
Christophe Pélissier a.
Mais le problème, c'est qu'il faut un quatrième.
Recette, oui.
Donc on est d'accord pour Angers, Ajaccio et Troyes, probablement. Maintenant, il y a un des clubs suivants, Strasbourg, Brest, Auxerre, qui risque d'accompagner aussi ces trois clubs. Hein. Strasbourg, Brest et Auxerre.
Je pense que les deux mieux armés, ce sont Strasbourg et Brest. Et je crois d'ailleurs qu'il y a 2-3 semaines, on a fait nos pronostics. La zone rouge était déjà celle-là.
Ouais.
Et moi, je pense que ça va rester comme ça. Je ne tiens pas la vérité.
Dit,
hein.
Mais
des bêtises, comme toujours.
Sûrement.
Je pense vraiment que Strasbourg et Brest sont les mieux armés. Mais c'est ce qu'on dit. Hein. Il y a les actes aussi sur le terrain, mais bon. Mais quand même, ce qui est fou, c'est que ça n'avance pas vite. Hein. On en parlait samedi, Dominique, en Ligue 2. Je crois que le dernier de Ligue 2 à 26 points, il serait 15e ou 16e de Ligue 1.
Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué de prendre des points quand on ne va pas bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Parce qu'effectivement, avec le nombre de points que possèdent les derniers en Ligue 2, ils seraient quasiment dans le ventre mou de la Ligue 1. C'est vraiment assez exceptionnel, hein, cette saison, de voir des clubs de Ligue 1 avec aussi peu de points.
Ouais.
Quand on pense que Brest n'est pas relégable et il ne faut pas faire partie des 4 derniers, avec seulement 24 points alors qu'on en est à 28 journées. C'est quand même pas. C'est pas beaucoup.
Et qu'en plus, il y a une équipe qui perd tous ses matchs. Donc ça veut dire que ça vous fait entre 4 et 6 points assurés. Oui, c'est ça.
Angers perd systématiquement contre tous ses adversaires.
Un palpitant Auxerre 3 lors de la prochaine journée après la trêve. Donc ça va aussi.
Une
confrontation qui va valoir cher. Il y en aura d'autres sur la fin de saison.
L'équipe faisait le comparatif hier. Je crois que tous les 5 derniers clubs, on exclut Angers, chacun va avoir 3 confrontations directes. Il y a même, à partir de maintenant, il y en a 3 confrontations directes pour chacun.
Bon, et ben voilà, à suivre pour les Brestois qui recevront pas un concurrent mais Toulouse après la trêve internationale. Un écran publicitaire et puis on revient cette fois en parlant notamment du National 3 avec la Saint-Colomban-Locminé.
Leclerc. Alors, faut que je trouve un cadeau pour ma petite nièce.
Regarde, il y a moins 50% sur le coffret de 40 pots de pâte à modeler Play-Doh arc-en-ciel. Il est plus qu'à 12,45€ et tous les enfants adorent.
Le coffret Play-Doh à moitié prix ? Toutes ces couleurs !
Ouais, c'est chouette.
Avec ça, je pourrais faire des bonhommes, des glaces, des animaux.
C'est bien ce que je disais, tous les enfants adorent.
Tout ce qui compte pour vous existe à Prix Leclerc. Du 21 mars au 1er avril, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Avec Hello Bank Pro, vous avez choisi d'être indépendant, pas d'être seul.
Le quotidien d'une graphiste, c'est des...
Bah, la typo...
Et des...
Parfait.
Mais c'est aussi... La facturation, les impayés.
Avec Hello Bank Pro, profitez d'une appli bancaire fluide et sécurisée, pensée pour vos besoins professionnels, à seulement 10,90€ hors taxes par mois. Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants. Sous réserve d'acceptation, détails et conditions sur hellobankpro.fr. Hello Bank est une marque de BNP Paribas.
Aldi.
Dans la vie, on aimerait tous avoir ce collègue super qui nous dit
« Ouh, la bonne affaire !»
Car le concombre Origine France est dès demain chez Aldi à 1,09€ la pièce. Oui, ce « Ouh, la bonne affaire !» qui vous ferait réaliser que ce serait quand même trop concombre de passer à côté. Vous voulez en profiter ? Venez chez Aldi, vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Offre valable du mardi 21 au samedi 25 mars. Info sur aldi.fr.
Lorsque Julien ouvrit son colis Amazon, il eut un vrai coup de foudre. Ce design épuré, cette puissance d'aspiration. C'était l'aspirateur de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.
Grâce à Hello Work, plus de 4000 personnes trouvent un emploi chaque jour et partout en France. Rendez-vous sur hellowork.com ou téléchargez l'appli Hello Work. Hello Work, notre job, vous aider à choisir le vôtre.
Pour Nathan, auxiliaire de vie petit-fils, Pierre n'est pas seulement un monsieur de 87 ans. C'est quelqu'un dont il s'occupe chaque jour avec plaisir depuis bientôt 3 ans. Alors forcément, ils commencent à bien se connaître tous les deux. Et Pierre s'occupe d'enseigner le jazz à Nathan. Il avait à cœur de lui transmettre sa passion, comme pour le remercier du temps qu'il lui accorde. Alors vous aussi, faites comme Nathan. Créez des liens uniques avec des personnes âgées en devenant auxiliaire de vie petit-fils. Rejoignez notre famille sur rejoindre.petitfils.com.
Renault, longue vie ou voiture à vivre?
Moi, je respecte la vision des réalisateurs. S'il me dit « José, c'est une comédie, mais je veux que tu sois grave », je m'incline. S'il me dit le contraire, pareil. Tout ce que je demande, c'est de bien voir où je vais.
Bien voir, c'est primordial. Chez Renault Car Service, pour tout remplacement de pare-brise, la franchise est offerte. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2023. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr et sur l'appli My Renault. L'Automobile Magazine, classement des Vecteurs 2022.
Alors nous, on voudrait une cuisine...
Avec des tiroirs qui font... Chut.
Mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et du 1er au 31 mars, vous avez le choix. On vous offre la TVA ou 150€ par tranche de 1000€ d'achat. Conditions sur SoCook.com.
Le magazine des déchaînés du football, on est en direct sur Radio Bonheur, 19h52, et nous parlons maintenant des clubs amateurs national, National 2, National 3.
Oui, on va commencer par le N3 ce soir et par la victoire de la Saint-Colomban Lucminé 4-0 sur la pelouse de la TRN. Victoire très importante dans la course au maintien pour les Morbihanais. Une victoire qui s'est dessinée en seconde période. Un but de Bila à la 51e, doublé de Danso au 68 et 83e, et puis un but de Laraba en toute fin de rencontre à la 92e. Et pour revenir sur cette rencontre, on a le coach de la Synco avec nous, Jacques Pichard. Bonsoir Jacques.
Bonsoir à vous, bonsoir à Radio Bonheur.
Bonsoir.
Alors une très belle victoire hein, Jacques, dans la course au maintien sur la pelouse de la TRN. Racontez-nous un petit peu ce succès qui s'est dessiné en seconde période.
Je dirais que c'est le résultat d'un travail depuis plusieurs semaines qu'on n'arrivait pas à sourire. Et effectivement, ce match... Première victoire extérieure sur une belle équipe de la TA, où effectivement, on dirait c'est dans la continuité de nos dernières prestations, puisque sur les 6 derniers matchs, on n'a qu'une seule défaite, donc 3 victoires et 2 nuls, donc ce qui fait que ça fait du bien pour notre redressement au classement. Alors évidemment, un match sur synthétique, deux équipes assez équilibrées en première mi-temps, on a quelques situations qu'on n'a pas concrétisées, on a eu la chance de marquer assez vite en deuxième. Et le premier, la 50e, 15 minutes après, on a le deuxième, 3-0, 4-0, on a eu beaucoup de situations. Effectivement, c'était à sens unique pratiquement la deuxième mi-temps, même si ils ont quand même des joueurs de grande qualité. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a été très efficace dans les deux zones de vérité, aussi bien défensivement, puisqu'on n'a pas pris de but, hein, et d'en mettre 4. ça fait du bien parce que là, en faisant les comptes aujourd'hui, on est à la sixième défense et la sixième attaque. Donc c'est un peu plus conforme à ce qu'on souhaite et ce qu'on souhaitait. Et quand on regarde les six derniers matchs, c'est 11 points. Donc ça veut dire qu'on a 18 journées. Sur les 12 premières journées, on a pris que 10 points. Et aujourd'hui, on est sur un total de 21.
Oui.
Ce qui veut dire que voilà, l'ascension, bah, elle est plutôt bien, puisque vous voyez bien, on est toujours pratiquement relégable, puisqu'on est tous ex aequo pratiquement. Donc je dirais le côté positif, c'est en plus de la victoire, c'est qu'on recolle au classement. Parce que ben voilà, aujourd'hui l'état d'esprit est retrouvé, on a retrouvé de l'effectif, on est organisé, discipliné, donc faut que ça dure quoi. Il faut que ça dure.
À quoi justement Jacques est dû ce renouveau actuel, là, cette série où vous prenez beaucoup plus de points que sur les 10 premières journées?
Ben, je dirais déjà qu'on a retrouvé l'effectif. Bon, un état d'esprit aussi. Donc à partir du moment qu'on a un effectif, il y a de la concurrence. Ce qui fait que depuis quelques semaines, on est obligé de faire des choix le vendredi soir. Donc ça c'est le premier point. Bon après évidemment le schéma on l'a pas forcément changé. On travaille beaucoup plus, donc les joueurs courent davantage. Et puis quelque part, en ne perdant plus, la confiance revient. Et revient petit à petit. Et là on est beaucoup plus serein les uns et les autres. Même si effectivement, comme vous voyez samedi dernier, on n'a pas pris de but en première mi-temps, on se dit à tout moment, on peut marquer. Bon effectivement on a fait un petit mercato d'hiver, donc avec deux joueurs. Un défenseur et un attaquant, on voit que ça change, on est beaucoup plus équilibré, et en même temps bah, ça booste tout le monde, donc c'est plutôt ça qui est très très bien. Et on sait très bien que depuis des semaines on agit beaucoup plus sur le groupe, c'est le collectif, tout simplement parce qu'on a un devoir vis-à-vis du club, parce que vous savez il y a 5 descentes.
Ouais.
Donc là aujourd'hui, il y a quelques semaines on nous disait il y avait 6 équipes pour 5 places à descendre. Là, au moment où je vous parle, moi j'estime qu'aujourd'hui il y a 9 équipes de concernées pour 5 descentes.
Ouais, c'est ça, tout se resserre en fait. Hein,
donc c'est le côté positif. Parce que il y a 3 équipes qui sont devant, qui vont rester, hein, qui vont se battre pour monter. Mais aujourd'hui, je dirais que avec notre victoire de la TA, même la TA aujourd'hui avec 25 points, va être. Il faut qu'elle fasse attention aussi parce que va falloir qu'elle gagne quelques matchs aussi pour se sauver.
Exactement.
Donc, comme tout le monde se rencontre, on voit bien ce week-end. Hein, nous, c'était une journée très profitable pour nous.
Parce que Plabennec a gagné, mais beaucoup ont perdu en fait dans ce bas de tableau.
C'est pas compliqué. Dole a été battu hier. La Montagne a gagné, mais ils sont quand même derrière. Bref, a été battu. Saint-Brieuc a été battu. Cesson a été battu. La GSI a été battue. Et la TA a été battue. Vous voyez.
C'est ça. Donc les calculs sont assez clairs en effet, ouais.
Donc voilà. Mais par contre, le plus dur reste à venir puisqu'il y a encore 8 journées. 8 journées.
Et justement, si on se penche sur le programme, lors des 5 prochains matchs, vous affrontez Dole, Plabennec, ainsi que les réserves de Brest et de Saint-Brieuc. À chaque fois, des matchs un petit peu à qui tout double, en fin de compte.
Oui, mais je dirais que depuis quelques temps, à chaque fois, c'est une finale. Si, par exemple, il y a 8 jours contre Lannion, on ne gagnait pas, c'était pratiquement terminé, honnêtement, dans les têtes. Donc, c'était déjà une première finale. Là, ce week-end, c'était une autre. Donc, à chaque fois, ça va être un match de coupe. Voilà dans quel état d'esprit nous sommes. Et le côté positif, c'est que sur les 8 matchs qui restent, à nous de faire la différence, on a 5 matchs à domicile. Donc, effectivement, avec des concurrents directs, hein, que ce soit Dole, que ce soit Fougères, que ce soit Saint-Brieuc, et notre déplacement, effectivement, Plabennec, Brest, et c'est son dernier match. Donc, c'est sûr, c'est un championnat haletant qui va se jouer jusqu'à la dernière journée. Il n'y a pas de miracle. Hein. On le sait, ça. Et je dirais que c'est aussi un très, très beau challenge. Il faut le voir positivement.
Et on a l'impression, Jacques, en vous écoutant, que le travail est aussi essentiellement mental, finalement, dans cette course, cette dernière ligne droite, quasiment, de la saison.
Oui, ça va. Bien sûr que le côté mental va faire la différence. Parce que les petits bobos et la victoire effacent beaucoup de choses. Et ça rassure, les joueurs étaient heureux samedi soir, parce que ça, première victoire extérieure, deuxième match consécutif de victoire, enfin sur les 6 derniers matchs, une seule défaite. Donc inconsciemment, l'état d'esprit est différent et l'engagement est différent et on est beaucoup plus serein et patient aussi. Et là qu'on recolle au classement, on s'est dit ça y est, première étape. Et puis maintenant, faut qu'on continue dès samedi prochain pour enfoncer le clou contre Dole à domicile, pour plusieurs raisons, parce qu'on a pris une fessée, entre guillemets, là-bas, la honte, à 4-0, qui était dernier, première victoire, ou la deuxième, c'était, je crois. Donc, on a une revanche à prendre déjà pour nous-mêmes, c'est surtout pour nous-mêmes, pour montrer
exactement.
Aussi à notre public qu'on, si on est là, on doit aller encore plus haut, beaucoup plus haut pour eux.
Et c'est en tout cas ce qu'on souhaite à la Saint-Colomban Locminé. Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Merci à vous, au plaisir.
Merci Jacques. Bonsoir.
Bonsoir.
Au revoir.
On parle un petit peu des... Il ne me reste plus beaucoup de temps de la Nationale 2 et Nationale 3, des classements aussi. Et oui, Nationale, ou tout simplement de Saint-Brieuc notamment.
Exactement. Allez-y Pierre dans ce cas et on clôturera avec le National.
Bah oui, alors on va faire le National 3, on en a déjà un petit peu parlé. La victoire de Plabennec à Dole, c'était hier. Dans le haut du tableau, eh bien, Dinan-Léon fait encore la belle affaire, puisque Dinan a gagné son match 1-0 face à Cesson, but de Vermeil à la demi-heure de jeu, et le Dauphin Fougère a été battu par le troisième, la Milizac Saint-Pierre, 3-0 à domicile, 3 buts en seconde période, Fernandez pour un doublé et but de Joseph, victoire, grosse victoire aussi à l'extérieur, il y en a eu pas mal hein, dans cette journée, la Montagnarde à la GSI Pontivy 3-0, but de maintenant de Rennes et de la place, victoire aussi à l'extérieur de Locminion, on en a parlé 4-0, Lannion a battu la réserve de Saint-Brieuc 2-0, Deveau et David pour les buteurs, Vitry a battu Brest B 2-1, encore des buts dans cette rencontre. Et puis, qu'est-ce que j'oublie ? Non, j'oublie plus rien, puisque on a parlé aussi de Plabennec tout à l'heure. Classement, Dinan-Léon, premier 42, deuxième Fougère 36, troisième Milizac 35. On descend un petit peu avec donc toutes ces équipes à égalité. Hein. Pontivy, Locmine et Cesson 21 points. Cesson est premier relégable. Ensuite, Saint-Brieuc 20, Brest B 15, La Montagnarde 14 et Dole 11. Rapidement, le N2 avec la défaite de Saint-Malo à Granville 2-1 et le match nul spectaculaire de Vannes 3 partout à Évreux. Malheureusement, ça n'arrange pas trop les Vannetais qui n'arrivent pas à se rapprocher du premier non relégable. Rouen est toujours premier avec 49 points. Ils avaient joué contre Guingamp B et gagné d'ailleurs leur match avancé un petit peu plus tôt. Premier avec 49 points. 7e Saint-Malo 28. 11e Granville 22. La zone rouge Guingamp 12e 21 points. Caen B 20 points. Rennes B 16. Vannes 15. Chartres 12.
Alors on est un petit peu pris par le temps, donc on va passer aux infos et on détaillera le National au retour de la pub.
Ben oui, parce qu'il est déjà 20h passé. 20h et presque 2 minutes, merci d'écouter Radio Bonheur. La suite des déchaînés du football avec les Guingampais, bien sûr, et on terminera avec le championnat de National pour cette page consacrée aux amateurs, juste après les infos. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. La motion de censure du RN largement rejetée avec 94 voix. La réforme des retraites est donc adoptée. La motion de censure du Rassemblement national n'a pas fonctionné à son tour. La réforme des retraites est donc adoptée à l'Assemblée. Elle va désormais devoir passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel dès demain. Car un peu plus tôt dans la soirée, avec 278 voix favorables à la motion de censure transpartisane déposée par le groupe Liotte contre le gouvernement sur les 287 requis, des députés n'ont pas renversé le gouvernement d'Elisabeth Borne. À l'annonce de ce résultat, les députés de gauche ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « On continue »,« Rendez-vous dans la rue »,« 64 ans, c'est non » ou encore « RIP » en référence au référendum d'initiative partagée. Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur, affirme Elisabeth Borne. La haine et la brutalité ne devraient pas avoir leur place dans le débat parlementaire, avait assuré la Première ministre lors de sa prise de parole devant l'hémicycle avant le vote de deux motions de censure contre son gouvernement. Nous ne sommes jamais allés aussi loin dans la construction d'un compromis qu'avec cette réforme, a également ajouté Elisabeth Borne. Dans l'actualité également, la SNCF qui prévoit pour demain un trafic assez stable sur les grandes lignes et en province et du mieux en Île-de-France, alors que la grève reconductible contre la réforme des retraites entrera dans sa troisième semaine. SNCF Voyageurs prévoit de maintenir demain 4 TGV sur 5, 6 intercités sur 10 et 2 TER sur 3, mais aucun train de nuit ne roulera. Olivier Dubois est libre, seul otage français dans le monde non retenu par un État depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Petronin, également enlevée au Mali. Le journaliste a été libéré et se trouve en sécurité à Niamey, la capitale du Niger. C'est énorme pour moi d'être libre, je ne m'y attendais pas du tout. Je voudrais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en matière de missions délicates à la France et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, a-t-il déclaré. Il faut que je reprenne mes esprits, je me sens fatigué, mais je vais bien, a-t-il déclaré.
Allez, le magazine des déchaînés du football. On est encore ensemble jusqu'à 20h30 pour parler tout de suite des Guingampais. Mais avant, on termine avec les championnats amateurs, enfin semi-amateurs, puisqu'on va surtout parler du championnat de national maintenant et de Saint-Brieuc. Oui. Et de Concarneau, pas chanceux les briochins ce week-end.
Non, les deux clubs qui s'affrontaient, c'était le derby retour au stade Guy Piriou, victoire 1-0 des Concarnois avec un but d'Antoine Rabillard sur pénalty à la 17e. Les briochins rapidement réduits à 10 après l'expulsion de Guillaume Béguin à la 29e. Il y a eu la blessure d'Angoua aussi en première période. Et puis expulsion après le match de James Lemarère parce que c'est le capitaine de Saint-Brieuc. Ça s'est un peu envenimé après la rencontre. Score final 1-0 pour Concarneau. Saint-Brieuc aurait sans doute mérité quand même d'accrocher le point du nul sur cette rencontre, mais ça ne tourne toujours pas pour les briochins. Et parmi les autres résultats, on s'aperçoit notamment eh bien, que Châteauroux a battu Nancy dans un match important là aussi, hein, juste au-dessus de la zone rouge. Le Paris 13 et le Puy ont fait match nul, un but partout. Borgo a perdu contre Cholet 2-1, et on n'oublie pas non plus la victoire de Martigues 3-0 contre Avranches. Martigues qui reste en tête de ce championnat avec 44 points, 42 pour Concarneau, tout comme pour Versailles, mais qui joue à 21h dans quelques instants sur la pelouse du Mans. Et on retrouve Dunkerque 40 points juste derrière. Dans le bas de tableau, Saint-Brieuc toujours 16e, 23 points, et toujours 7 points de retard sur Le Mans, mais qui, on le disait, joue donc également
premier non relégable Le Mans
ce soir. Voilà, et l'info du jour, c'est que Saint-Brieuc-Nancy, qui était prévu vendredi soir, est reporté à une date ultérieure parce que Nancy a deux joueurs qui partent en sélection, et la règle veut, comme il n'y a pas de trêve internationale en national, et bien qu'à partir de deux joueurs, on peut demander le report du match, ce qui a été accepté par la FFF.
Vous ne pouvez pas s'en rendre compte avant.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas, déjà qu'ils ont plus ou moins appuyé pour que le match soit reporté, alors que Saint-Brieuc menait. Il me semble, c'est ça, non?
Contre Concarneau.
Concarneau, pardon. Ouais, alors que Concarneau.
Bah, du coup, ils vont avoir deux matchs de retard, les Nancéens, ouais, à jouer.
Ouais, ils aiment bien jouer avec les règlements, non?
C'est un peu bizarre, hein, comme situation. Ça arrive très rarement qu'il y ait un club qui demande comme ça le report pour deux internationaux, mais bon, ils l'ont fait. Le plus simple, c'est peut-être à l'avenir de
nos clubs bretons reportés.
Ouais.
Pour Concarneau, le sprint final est lancé.
Ah oui, hein, les Concarnois qui sont sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Ça a été loin d'être la plus aboutie, hein, face à Saint-Brieuc, mais victoire quand même, et forcément les points sont grappillés. On le disait, Concarneau a donc aussi ce match de moins à jouer à Nancy, donc c'est un match qui peut même permettre à Concarneau de passer en tête en fait du championnat s'il y a victoire à Nancy.
Concarneau peut-être en Ligue 2 donc la saison prochaine.
C'est une possibilité. En tout cas, après un coup de mou, ils sont clairement revenus là dans dans les standards,
dans la course,
dans la course pour monter en Ligue 2.
Ouais, et pour Saint-Brieuc, c'est toujours compliqué.
Ouais.
Saint-Brieuc pourrait ne pas réussir le challenge de se maintenir cette saison en national.
Ouais, il y a eu du mieux aussi ces dernières semaines.
Oui, ça va mieux, mais les briochins payent surtout leur début de saison complètement manqué. Ouais. Hein.
Et depuis, forcément, ils traînent ça, et le retard est toujours assez conséquent quand même avec le premier non relégable.
Bon, allez, il faut gagner les briochins là dans les derniers matchs, un match sur deux au moins, une victoire sur deux pour essayer de se sauver. 20h10, on parle des Guingampais de la Ligue 2 et du bon match nul somme toute de Guingamp à Annecy, un but partout ce week-end vendredi, c'était samedi soir à 19h.
Ouais. Oui, pour avoir commenté les deux matchs, alors c'est pas le même score, mais c'est un peu je vais un peu me répéter, je pense, par rapport à la première demi-heure et ce qu'on a vu de Brest, parce que c'est vrai que Guingamp a manqué sa première période, en tout cas a été en difficulté pendant la première période à Annecy, et puis Guingamp, non pas par miracle, mais avec de la réussite, et a rejoint les vestiaires avec un nul, un but partout. Le problème, c'est que Guingamp, avec plus d'efficacité, aurait pu prétendre même à la victoire dans une seconde période de bien meilleure qualité. On réécoute ce qui s'est passé avec le résumé de ce Annecy Guingamp samedi soir. En France, attention, Wagomis qui s'est raté, de Moncy peut-être pour le but, oui. Ah, l'erreur défensive de Donatien Gomis qui a perdu son duel dans la surface de réparation face à Johan de Moncy qui a vu Moïse Saïdion tout seul au second poteau. Il ne s'était procuré que très peu d'occasions, les Annéciens, dans cette première période. C'est un but donné là sur cette erreur défensive de Guingamp. 1-0 pour le promu. Attention à ce ballon là récupéré par Roux et Loisani qui lance bien Livolant, les possibilités d'égalisation pour Livolant, le centre devant le but, Escalès, c'est le but, il est dedans, les gars.
égalisation de Guingamp. Impossible de vous dire qui a marqué, mais ça semble être un but contre son camp sur une superbe orientation d'El Ouazzani dans la profondeur pour Livolan. Le centre fort devant le but. Escalès a touché le ballon. Peut-être Mwanga aussi, peut-être Baptiste Guillaume. Toujours est-il qu'une minute après l'ouverture du score, Guingamp égalise un partout. Oh, la grosse occasion pour Ntamack et la parade de Basilio, on s'est tous fait avoir. Le corner, ça traîne et c'est but ou pas? Non! Dégagement de Baptiste Roux. Il est temps que cette première période se termine parce qu'on est en train de suer à grosses gouttes là les amis dans cette fin de première période. Voilà Basilio qui récupère le ballon. On ne tient plus du tout le ballon. On s'expose à des catastrophes là. Ah oui, c'est le poteau en fait. On n'avait pas vu, c'est le poteau. Attention, oh, Livolan pour Picard, la tête juste à côté d'Hugo Picard, immense occasion après 42 secondes dans cette seconde période. Si oui, hop hop hop, ça peut être bon ça pour Livolan. Allez, il va plus vite, il va plus vite, il va plus vite Livolan. Oh, il y a une faute, mais il y a une faute et ça c'est carton rouge monsieur l'arbitre. Annihilation d'occasion de but et carton rouge pour François Lajugi, oui. Oh, l'erreur incroyable des Annéciens, Livolan dans la surface. Oh, qu'il est long, ce crochet, Livo. De Mouyumba, le centre devant le but. El Ouazzani, malheureusement, qui ne marque pas. Il était passé devant tout le monde au premier poteau. Super parade de Florian Escalès, encore une occasion. Louisier, est-ce qu'il va avoir le temps? Non, 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 c'est terminé. Match nul, un but partout entre Annecy et Guingamp. C'est un score équitable car la rencontre a été équilibrée des deux côtés. Une mi-temps dominée par les deux équipes.
Et donc, score final, un but partout entre Annecy et Guingamp.
Oui, avec donc cette première période où Guingamp était en difficulté, surtout la fin de première période où Basilio a dû sortir une belle parade, où le poteau aussi nous a sauvés sur un contre malheureux de Loïc Mbesso sur un corner. Et du coup, question posée à Stéphane Dumont, enfin, on lui a dit, bon, un mot sur la mi-temps ratée. Pour lui, elle n'a pas été bonne, certes, mais elle n'a pas été ratée. Pourquoi ? Voici sa réponse.
Ouais, pour moi la première mi-temps a été difficile. On a eu du mal à garder le ballon et on a eu du mal à s'octroyer quelquefois un point de fixation haut, être capable d'enchaîner 2-3 passes pour aller construire autre chose. Donc pour le coup c'est une première mi-temps assez moyenne. Par contre je la trouve pas ratée pour une raison et qui me paraît essentielle d'un point de vue psychologique et notamment de la part de mon équipe, c'est qu'elle a refusé d'être menée. Voilà, elle a été menée qu'une minute. Et en termes d'état d'esprit, sur un plan psychologique, ça s'est senti. Dès le but encaissé, au contraire, il y a eu, enfin, il n'y a jamais eu un renoncement, il n'y a jamais eu un coup de massue, bien au contraire. On a engagé, on a gagné deux duels, on a une prise de profondeur et on a été capable de, voilà, d'égaliser de suite dans la foulée. Et ça, je trouve que, au regard de la première période moyenne, dans le sens où on a quand même un état d'esprit conquérant.
Oui, parce qu'on a senti dès l'engagement que Guingamp voulait tout de suite repartir de l'avant, était un peu piqué par cette ouverture du score d'Annecy. Ça, c'est un point positif pour les Guingampais dans cette rencontre, surtout dans ce parcours à l'extérieur hein, qui est toujours aussi bon. Alors, qu'est-ce qui a été dit à la mi-temps? Qu'est-ce que Stéphane Dumont a voulu construire dans son discours pour que ses troupes subissent moins en seconde période? Voici sa réponse.
Bon, à la pause, on a mis du calme. On a essayé de leur fixer un ou deux objectifs, en tout cas d'agir sur deux, trois points, notamment être capable, encore une fois, d'être plus rigoureux sur l'acte défensif en lui-même, c'est-à-dire d'un point de vue individuel, d'être capable de repousser les ballons correctement, de ne pas faire d'erreur, de ne pas sentir de la fragilité sur un plan défensif, ce qui de suite va donner de la confiance sur nos milieux, sur nos attaquants qui vont pouvoir nous garder 2-3 ballons et puis ensuite de pouvoir aller faire mal à cet adversaire. Donc c'était ce premier point qui me paraissait le plus important. Le deuxième, c'est que plus le match avançait, plus on serait encore en capacité d'aller avoir des situations et de leur faire comprendre.
Ouais, parce que c'est pas la première fois que les Guingampais sont passent un peu au travers d'une mi-temps et sont meilleurs dans l'autre. On pense à Bastia, on pense à Rodez aussi en déplacement, où Guingamp avait quand même ramené 4 points sur 6 sur ces matchs-là. Ça a encore été le cas samedi à Annecy. Une dernière page de réclame et on reparle donc du match de samedi et puis de la suite aussi pour les Guingampais.
Dans la restauration,
deux bavettes, un café, un tiramisu.
Le sport ou encore la culture, il y a forcément un métier du tourisme qui vous correspond. La semaine des métiers du tourisme, c'est du 3 au 9 avril 2023. Visite d'entreprise, journée portes ouvertes, job dating, conférences, animations. Retrouvez tous les événements organisés dans votre région en vous rendant sur monemploitourisme.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Mano Mano. Pour les pros, le bon réflexe pour vos travaux, c'est Mano Mano Pro. Parce que commander tout son matériel à prix compétitif et au même endroit, se faire conseiller par une équipe dédiée 7 jours sur 7 et se faire livrer en toute simplicité, ça fait gagner du temps, de l'argent et ça, c'est vraiment du travail de pro. Mano Mano. Mano Mano Pro, on bosse pour vous.
Aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est difficile. Avec la hausse des taux, les mensualités augmentent et la situation...
Excusez-moi, j'adore hein, la musique triste, les violons, tout ça, mais vous savez qu'avec Cogedim, devenir propriétaire, c'est toujours possible?
Ah bon? Non, je...
Bah oui, Cogedim s'engage pour votre pouvoir d'acheter et vous rembourse jusqu'à 600 euros par mois pendant 4 ans pour l'achat d'un appartement neuf Cogedim. Et ça, ça allège vos mensualités.
Je vais sur cogedim.com alors?
Voilà.
Détails et conditions de l'offre sur cogedim.com.
Allez, la suite du magazine des déchaînés du football, la dernière ligne droite, toujours avec ce match des Guingampais et ce point du match nul pris à Annecy ce week-end.
Oui, on a remarqué un point commun à toutes les actions dangereuses quasiment de Guingamp samedi, c'était sur la prise de profondeur, les ballons en profondeur. Ça a souvent été un problème pour en avant cette année. On se souvient que Dumont réclamait pendant de longues semaines un joueur de profondeur qui est arrivé avec Amin Elouazani. Et c'était effectivement une consigne donnée aux Guingampais. Écoutez la raison pour laquelle Dumont avait choisi un petit peu cette tactique, qui a plutôt bien marché parce qu'il fait la liste aussi eh bien, de toutes les actions qui auraient pu et qui ont fait basculer aussi le match en faveur des Guingampais.
Être capable d'attaquer la profondeur contre cette équipe est indispensable, mais c'est aussi l'équipe d'Annecy qui permet et qui demande ça. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est une rare équipe qui est capable de... voilà, elle voit un maillot adverse à l'avance, parfois en s'alignant haut, parfois en jouant le hors-jeu. Et elle vous laisse très très peu de temps pour vous organiser, très peu de temps pour construire les choses dans votre partie de terrain. Par contre, elle laisse de la place dans son dos et on a insisté en première période. Et je pense que à force d'insister, on a vu que leurs défenseurs commençaient à faiblir. Et je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. Hein. L'égalisation a été bonne dans ce sens-là. Livo est parti dans la profondeur sur le but. Amine a eu quelques situations. J'ai parlé de celle de Livo en tout début de deuxième. Il y a eu des plongées de Steph, des plongées de Tristan aussi. J'ai le souvenir sur l'occasion d'Amine en fin de match. Et puis il y a le carton rouge sur Livo. Tout le travail d'attaque de la profondeur de la première période commence à payer.
Ça fait plaisir, Gaëtan, hein, quand vous êtes entraîneur et que vous vous rendez compte que ce que vous avez préparé, alors marche, oui, parce que Guingamp s'est procuré beaucoup d'occasions comme ça. Ça aurait pu encore marcher mieux si Guingamp avait gagné. Mais en tout cas, les consignes, là, elles ont été respectées.
Oui, et ça, c'est évidemment, quand on est coach, comme vous le disiez, c'est quelque chose qu'on apprécie tout le temps. Et d'autant plus quand ça fonctionne. Ces dernières semaines, c'est le cas d'une manière générale. Et sur ce match d'Annecy, donc, comme l'expliquait l'entraîneur d'en avant. Mais oui, c'est vrai que l'arrivée d'Elouazani aussi a tout changé par rapport à ça. Parce que ça fait... une corde de plus à l'arc des Guingampais et face à des défenses de Ligue 2, certaines plus que d'autres, Annecy en fait partie, mais il y a parfois des défenses un peu lourdes, un peu plus anciennes aussi dans certains clubs. Avoir ce style-là de profondeur, forcément, c'est une arme non négligeable.
Ouais, et on l'a vu, hein, ce qui a été intéressant aussi, et Dumont le disait après le match, c'est que Guingamp cherchait beaucoup la profondeur. Alors en première période, ça marchait pas tout le temps, même si ça a marché sur le but, parce que l'avant-dernière passe, elle est en profondeur, mais ça fatigue. Parce que les joueurs d'Annecy, les défenseurs d'Annecy devaient faire beaucoup, beaucoup de courses pour compenser ces appels guingampais. Et c'est pour ça aussi qu'en fin de match, plus le match avançait, plus Guingamp a eu des occasions. C'est ce que Dumont disait surtout l'année dernière, construire les matchs. C'est vrai que parfois on a une vision court-termiste et on ne retient que la première période qui n'a pas été bonne du tout. On se dit, oh, ils sont quand même pas malheureux d'être venus. Oui, enfin, ils peuvent quand même, les guingampais, se dire qu'ils auraient dû le gagner ce match, vu la seconde période. Un match de football, c'est demi-temps. On l'a bien vu aussi hier avec 3 Brest. Donc c'est un score équitable sur ce Annecy-Guingamp. Mais ce qui est la particularité de ce match, c'est que Annecy a vraiment dominé la première, Guingamp a vraiment dominé la seconde, mais tous les buts ont été en première période avec donc cet enchaînement, hein, le but de Saïdion à la 21e et puis le but accordé pour l'instant contre son camp à Lajugi, le défenseur central qui décidément n'est pas chanceux parce que c'est lui aussi qui a été exclu en fin de rencontre. Je pense qu'il a plus envie d'entendre parler de Guingamp pendant 2-3 mois. Sacrée soirée effectivement pour Lajugi, mais voilà, en attendant la décision finale du comité de révision de la Ligue.
Parce que ça semblait plus être Mwanga, en effet, qui...
C'est vraiment Mwanga qui l'a dévié vers le but. Après, Guillaume, les fleurs et la touche du dos. Donc moi, dans mon esprit de guingampais et d'attaquant, je veux le donner à Guillaume. Mais c'est vrai que la Jugi la retouche avant la ligne. Donc, peut-être que c'est ça qui a été pris en compte par la Ligue de football professionnel. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un but partout. C'est bien là l'essentiel pour les guingampais. On arrive donc à cette trêve internationale, la dernière de la saison. Il restera 10 matchs à en avant. Au classement, il n'y a rien de grandement passionnant. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de grand espoir non plus pour les guingampais. Mais au moins, voilà, se créer une belle fin de saison, c'est l'objectif notamment de Stéphane Dumont qui dresse le bilan des guingampais.
On tire un bilan où on aurait voulu être à la bagarre. Maintenant, je trouve que la bagarre, on la voit quand même de loin. On n'est pas à quatre pâtés de maison. Je trouve qu'on est au coin de la rue. On regarde ça d'un peu loin, mais en tout cas, on la voit quand même. Et on va être acteur principal aussi de ça. Et ça, c'est top. Quand on a de la continuité, quand on est capable de pouvoir amener un 13-14 de manière constante, quelles que soient les journées, de manière successive, on est capable de construire de belles choses, de répondre à n'importe quelle équipe. Et ça, c'est plaisant. On ne peut pas avoir un bilan à l'extérieur comme on l'a, sans avoir beaucoup de choses positives dans ce qu'on fait, dans la manière et dans l'état d'esprit. Aujourd'hui, on est la deuxième équipe à l'extérieur et je trouve que ça parle. On a rectifié les choses aussi à domicile depuis un petit moment et ça aussi, c'est quelque chose d'important.
Oui, les Guingampais qui, en plus, vont avoir un calendrier, Dumont le disait, passionnant, parce qu'en avant, on va être l'un des arbitres de la montée, parce que sur les deux prochains matchs, c'est Bordeaux à Roudourou, puis Le Havre à l'extérieur. Il y aura aussi un déplacement à Sochaux le 13 mai, puis la réception de Metz le 20. Donc il y aura deux enchaînements de deux matchs contre des équipes qui, normalement, se bagarreront jusqu'au bout pour la montée. Donc c'est quelque chose d'intéressant aussi, de pouvoir se mesurer à ces équipes-là. Et puis, Guingamp avait fait globalement des bons matchs contre ces équipes-là à l'aller. Hein. Il y avait eu une victoire à Bordeaux, une victoire à Metz. Le match contre Sochaux n'était pas mauvais non plus. Contre Le Havre non plus, même si ça s'était joué en fin de rencontre. Deux défaites à Roudourou. Donc voilà, c'est ce qui peut être aussi excitant au-delà du prisme guingampais, Gaëtan, dont on parlait la semaine dernière, pour voir les uns et les autres progresser, voir des associations et puis pour pouvoir créer un élan pour l'année prochaine.
Ouais, c'est un peu ce qu'on disait déjà dans le magazine, je crois, de la semaine dernière, hein, où il y a cet élan à créer pour la suite, avec en plus, comme en parlait Dumont la semaine passée, une équipe qui cette fois devrait garder beaucoup plus de force vive pour la saison prochaine. Donc l'intérêt, il est là. Et puis l'intérêt d'aller, en effet, se jauger face à des équipes comme Bordeaux, Le Havre, Metz, Sochaux, les gros de ce championnat. En tout cas, ceux qui luttent pour l'accession en Ligue 1. Et effectivement, c'est un petit défi supplémentaire pour Guingamp, parce qu'il faut aussi trouver des petits défis pour animer la fin de saison. Le coach a aussi besoin de ça pour pas que ce soit 10 derniers matchs en roue libre. Donc voilà, ça peut être une des clés de Guingamp sur la fin de saison. Et puis, bien sûr, d'aller chercher la meilleure place possible ensuite.
Et puis, les fins de saison, c'est quand même une spécialité guingampaise. Parce qu'on se souvient des 10 derniers matchs sous Bompard il y a 2 ans. Guingamp avait fini leader de Ligue 2 sur cette série-là. Était passé quasiment, je crois, de la 18e à la 9e place de Ligue 2. Et puis, l'année dernière, de la 12-13e place à la 6e. Et puis, en créant un vrai écart avec les poursuivants. Voilà, maintenant on va voir ce qui se passe. Et puis donc on pense à cette fin de saison-là. Dans cette fin de saison-là, on pense à celle de l'année dernière avec un joueur qui était là l'an passé, c'est Tristan Muyumba. On lui a posé la question aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous amener à penser que la fin de saison dernière peut vous aider cette année? Voici la réponse du milieu de terrain d'en avant.
Forcément, on va essayer de s'appuyer sur notre pseudo petite expérience qu'on a pu emmagasiner la saison passée sur les bons résultats et la belle deuxième partie de saison qu'on a pu faire. On va mieux, que ce soit dans les contenus, que ce soit dans le résultat. On a traversé une première partie de saison, notamment la deuxième partie de la première partie de saison qui était un petit peu compliquée. Et ouais, bien sûr que l'expérience qu'on a pu avoir en saison passée, même s'il y a eu énormément de départs et avec d'autres joueurs, se donner une deuxième partie de saison un peu plus tranquille, avec plus de plaisir, ça c'est sûr.
Voilà, le plaisir, parce que les Guingampais en avaient pris beaucoup l'année dernière en fin de saison. On a l'impression que ça recommence, Gaëtan. J'ai l'impression de revivre l'année dernière où les contenus étaient là avant que les victoires s'enchaînent. On avait senti cette flamme un peu arriver. Alors peut-être qu'on sera complètement déjugé et que Guingamp va gagner aucun des 10 derniers matchs, ça serait quand même étonnant. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une équipe type qui est trouvée. L'an passé aussi, Dumont avait bien, j'allais dire pataugé, oui et non, mais avait bien attendu avant de trouver son 11 type. Là, il l'a trouvé, espérons que ça tienne avec les blessures, mais voilà, il y a des éléments qui laissent penser que on peut vivre une fin de saison un peu plus excitante que le reste.
Ouais, c'est ça, et j'ai même le souvenir de Jérémy Livolant qui, après la victoire au Paris FC, disait que c'était presque un coup à avoir des regrets dans 10 matchs, quoi, hein, quand la saison sera terminée, que Guingamp sera peut-être, si tout se passe très bien, je sais pas, 6e de cette Ligue 2 à nouveau, et qu'on se dira, s'il n'y a pas eu ce gros trou, alors, mais ça fait partie de l'histoire de la saison bien sûr, hein, mais Guingamp a pu être plus haut que ça, et ça peut amener en effet à avoir des regrets s'il y a encore une grosse série. Maintenant, il faudra surtout garder le côté positif de cela et se dire que c'est aussi la suite qui se prépare dès maintenant, qui a déjà commencé sans doute, mais qui va se préparer encore sur la fin de saison, et une fin de saison qui peut être, c'est vrai, assez sympa aussi, de par les affiches et puis de par les prestations que commencent à fournir les Guingampais là depuis quelques semaines.
Et le prochain match, ça sera dans 2 semaines, pile à la même heure. Là, on sera en train de se préparer à Roudourou. Ça sera Guingamp-Bordeaux, un match d'ailleurs où on fêtera, il me semble, parce que c'est ce qui était prévu depuis un moment, les 50 ans de l'épopée 73.
Exactement.
Donc il y aura de belles animations, je pense, autour de cet anniversaire-là.
Voilà, merci messieurs. Il est presque 20h30. Prochain rendez-vous avec les déchaînés du football demain matin à 8h40. Pour reparler de Lorient, de Brest et de Guingamp. Et puis, prochain match, donc, alors pas le week-end prochain, hein, il faudra attendre le week-end suivant. On aura 2 matchs dimanche après-midi, Lorient et Brest, à 13 et 15
heures. Lille-Lorient à 13h et Brest-Toulouse à 15h.
Et le match donc de Guingamp, ce sera lundi soir à 20h45 dans 2 semaines.
Exactement.
Exactement.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Radio Bonheur, parle-en à ta sœur.
Ensemble avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, on écoute Radio Bonheur.
Toute la journée, toutes les heures, on écoute Radio Bonheur. Oh, oh.